VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 27 juin 2016. À la une ce soir.
Regain de violence en République centrafricaine, un casque bleu sénégalais a été abattu vendredi à Bangui.
Après 6 années de brouille, Israël et la Turquie ont officialisé la normalisation de leurs relations.
Nous reviendrons également sur le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et dans moins de 10 minutes, plein faux sur l'Euro 2016, l'Italie devance l'Espagne par 1-0 à la mi-temps. Mais tout d'abord, le journal. Un casque bleu sénégalais a été abattu à Bangui par des individus armés non identifiés. Cela s'est passé vendredi dernier, mais c'est aujourd'hui que la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a annoncé la nouvelle. Jacques Aristide.
Le corps de la victime a été retrouvé à l'hôpital général de Bangui dans des circonstances non encore élucidées d'après la MINUSCA. Une enquête a été immédiatement ouverte. La force onusienne condamne à cet acte qu'elle qualifie d'ignoble et d'injustifié. Une source celle de la MINUSCA a indiqué que le soldat tué faisait partie du contingent sénégalais. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, porter atteinte à la vie d'un soldat de la paix peut être considéré comme un crime de guerre. Parfait Onanga Nianga promet que tout sera mis en place pour traduire les auteurs de ce meurtre en justice. En avril dernier, un casque bleu marocain a été tué dans le sud-est de la Centrafrique dans une attaque attribuée à la guérilla ougandaise LRA. Ce nouveau meurtre intervient dans un contexte de regain de violence depuis l'élection du président. Président Faustin Archange Touadéra en février dernier.
Élections en République démocratique du Congo, les évêques catholiques plaident pour la tenue du scrutin censé avoir lieu avant la fin de l'année. Ils renvoient donc le pouvoir et l'opposition à leurs responsabilités. Le blocage du processus électoral engendre une situation inquiétante qui risque de plonger le pays dans le chaos. C'est ce qu'a déclaré l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le mandat du président Joseph Kabila s'achève en décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais l'opposition l'accuse de retarder volontairement la tenue des élections et de manœuvrer pour s'accrocher au pouvoir.
République démocratique du Congo toujours. La justice congolaise a repoussé de 24 heures la réouverture du procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide. Les violences se sont produites lors d'affrontements au Katanga en 2013. La cour d'appel de Lubumbashi a constaté ce matin l'absence des accusés et des victimes.
Génocide rwandais, Octavien Ngenzi, jugé à Paris, continue de nier toute participation au massacre de 1994. L'ancien bourgmestre de 58 ans est accusé d'avoir pris part au massacre des Tutsis dans sa commune de Kaba Rondo.
Nigeria, le président du Sénat nie avoir fait usage de faux pour être élu. Le procès de Bukola Saraki-Aho a débuté aujourd'hui devant la haute cour d'Abuja. Il est accusé de conspiration criminelle et de falsification du règlement du Sénat. Monsieur Saraki est également accusé d'avoir dissimulé des biens acquis avec des fonds détournés quand il était gouverneur de l'état de Kwara.
Migration vers l'Europe. 3324 migrants ont été secourus dimanche au large de la Libye au cours de 36 opérations, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Nathalie Barge.
Les migrants étaient entassés dans 25 canots pneumatiques et un bateau en bois. Il n'y a pas eu de victimes selon les gardes-côtes italiens. Des navires de la marine italienne ont pris part aux opérations de secours, ainsi que des bateaux de l'agence européenne Frontex et de l'opération antipasseur Sophia. Les associations Médecins sans frontières et Sea-Watch ont prêté main forte aux secouristes. Les migrants ont été transférés vers des ports du sud de l'Italie. Ces arrivées portent à plus de 66 000 le nombre de migrants parvenus en Italie ces 6 derniers mois, tandis que plus de 2 800 ont péri en Méditerranée, selon le HCR.
Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dictateur libyen, va demander à la CPI d'abandonner les procédures à son encontre. Ses avocats affirment que leur client avait déjà été jugé et condamné dans son pays.
Le président sud-africain Jacob Zuma devrait rembourser à l'État 500 000 dollars dans le scandale de sa résidence privée, notamment pour la construction d'un poulailler et d'une piscine. Selon les recommandations aujourd'hui du Trésor, une somme que l'opposition a jugée sous-évaluée.
Et au Zimbabwe, le chef du principal parti d'opposition, Morgan Tsvangirai, a annoncé qu'il souffrait d'un cancer du côlon, découvert il y a un mois après une hospitalisation en Afrique du Sud.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La crise semble s'aggraver en Grande-Bretagne alors que les autorités britanniques et européennes s'empressent de concevoir l'après-Brexit. Certains parlent du pire désarroi au Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a tenté de rassurer les marchés, déclarant que l'économie du pays est fondamentalement forte. Le Premier ministre David Cameron a repris ce message dans l'après-midi dans son premier discours devant le Parlement depuis le référendum de jeudi dernier.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Londres après une visite à Bruxelles où il a rencontré les dirigeants de l'OTAN. Washington s'est dit très préoccupé par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Monsieur Kerry cherche à calmer les inquiétudes des alliés sur ce qui peut arriver après le Brexit. Prenant la parole au QG de l'Alliance à Bruxelles, le chef de la diplomatie américaine a dit anticiper une temps encore plus forte et les événements en Grande-Bretagne n'affecteront pas trop la posture militaire de l'Alliance Atlantique. Le prochain sommet se tiendra les 8 et 9 juillet à Varsovie en Pologne.
Israël et la Turquie ont officialisé ce lundi la normalisation de leurs relations après 6 années de brouille. Ce rapprochement est salué par l'ONU comme un signal d'espoir pour le Moyen-Orient en crise. Les deux pays qui étaient de proches alliés jusque dans les années 2000 se sont retrouvés justement brouillés après un incident quand une flottille voulait se diriger vers Gaza.
Israël a conclu un accord d'une importance stratégique pour sa sécurité, pour la stabilité régionale et pour l'économie.
Le Premier ministre israélien s'est félicité de cette normalisation. Un haut responsable turc a déclaré de son côté que cela représentait une victoire diplomatique pour la Turquie. Pour rassurer les Palestiniens, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu cette nuit avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Monsieur Erdogan a également rencontré vendredi le chef du Hamas, Khaled Meshal, basé à Doha. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, en visite à Jérusalem, a vu dans cet accord un signal d'espoir pour la stabilité du Moyen-Orient. C'était en 2010, l'assaut israélien contre le navire Mavi Marmara, affrété par une ONG turque pour tenter de briser le blocus de la bande de Gaza, avait fait 19 morts, dont 10 Turcs. Depuis cet incident, les relations entre Ankara et Tel Aviv sont au plus bas, jusqu'à aujourd'hui.
Salwa Jafari.
La Turquie a finalement offert des excuses à la Russie pour l'attaque d'un avion militaire russe l'année dernière, près de la frontière syrienne. Ankara avait alors accusé Moscou de violer son espace aérien, ce que le gouvernement russe a toujours démenti. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à la presse que le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait parvenir un message à Vladimir Poutine, exprimant sa sympathie et ses condoléances à la famille du pilote tué dans l'incident de novembre 2015. Moscou avait depuis lors imposé des restrictions commerciales à la Turquie.
La Cour suprême des États-Unis a réaffirmé avec force le droit des femmes à l'avortement, une question passionnelle qui déchire le pays en cette année électorale. Claire Morin-Gibourg.
5 juges ont voté pour et 3 contre. C'est une grande victoire pour des millions de femmes. C'est aussi un revers pour les pro-life, qui avait obtenu l'imposition de multiples restrictions à l'avortement dans de nombreux États conservateurs. La haute instance judiciaire a jugé illégale une loi de 2013 au Texas qui impose aux cliniques pratiquant des avortements de posséder un plateau chirurgical dernier cri et les médecins d'avoir un droit d'admission de leurs patientes dans un hôpital local. Ces règles draconiennes ont contraint à la fermeture des dizaines de centres pour avortement au Texas. Pour les défenseurs du droit à l'interruption volontaire de grossesse, Ce sont les mêmes assauts répétés contre la décision historique de la Cour suprême de 1973 légalisant l'avortement. Fin novembre, un adversaire de la mesure a abattu 3 personnes dans un centre de planning familial du Colorado. Ce débat passionnel, loin de se calmer, risque de revenir durant la campagne opposant Hillary Clinton à Donald Trump.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à présent dans cette émission au journal de l'Euro avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Suite et fin des huitièmes de finale.
Oui, un air de revanche en ce moment, hein, de revanche de la finale d'il y a 4 ans à Kiev. L'Italie mène face au champion en titre 1-0. Et Chérubin, nous jouons les arrêts de jeu dans ce match très ouvert.
Il faut dire aussi que l'Angleterre affronte l'Islande.
Oui, ce sera tout à l'heure, hein, à 19h temps universel. Ce sera le dernier match de ces huitièmes de finale.
Vous avez dit que nous jouons les arrêts de jeu.
Les arrêts de jeu dans quelques 10 minutes. Oui, il reste encore 10 minutes dans
okay,
le match.
Voilà. Ouais. Et alors, hier dimanche, la France a arraché son ticket pour les quarts.
Oui, le pays organisateur a beaucoup souffert, mené au score. Après 2 minutes de jeu contre l'Irlande, les Bleus ont validé leur billet pour les quarts de finale grâce à un doublé d'Antoine Griezmann en seconde période, 2-1. Les Irlandais ont été réduits à 10 après l'expulsion de Shane Duffy suite à une faute sur Antoine Griezmann. Les Bleus devront croiser en quart de finale soit l'Angleterre ou l'Islande. La réaction d'Antoine Griezmann, le buteur français.
L'Islande, s'ils sont là, c'est parce qu'ils le méritent. Ils ont fini premier de leur poule. Et voilà, que ce soit eux ou l'Angleterre, ça sera un match compliqué où il faudra tout donner. Et voilà, mais comme j'ai dit, on va bien regarder le match ce soir et prendre des notes.
Voilà, et prendre des notes. Et cette qualification de la France, c'est l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonsoir. En gagnant son match dimanche contre une rugueuse formation d'Irlande, l'équipe de France a reconforté ses nombreux supporters qui attendaient de l'avoir à l'épreuve dans une rencontre à élimination directe. Mais que se fit dire? Les Irlandais ont annoncé la couleur dès la première minute en exploitant une bévue de la défense des Bleus peu sécurisante depuis le début de la compétition. La formation française, spécialisée par l'enjeu, le scénario du match et les fautes de placement imposées à ses joueurs majeurs, a semé le désarroi en première mi-temps sur la pelouse comme dans les gradins. La décision de Deschamps à la pause de replacer Matuidi sur le côté gauche, de ramener Griezmann dans l'axe en dédoublement avec Giroud et de faire rentrer Coman à la perfection va totalement changer le cours ainsi que le sort de la rencontre. Rarement un entraîneur n'a été aussi près d'être responsable de la défaite de son équipe pour ensuite devenir dans la même rencontre l'auteur de sa victoire. Pour le reste, l'équipe de France qui a profité d'une période de récupération plus longue que l'Irlande monte incontestablement en puissance et trouve ses marques. Il est 7 ans, même si la suspension de Rampi remet à l'ordre du jour et sans plus fermer le problème de la défense axiale. À Deschamps de le résoudre. À demain.
Et qualification de l'Allemagne et la Belgique hier soir.
Oui, les Allemands champions du monde en titre ont facilement battu la Slovaquie 3-0 grâce à des buts de Boateng, Gomez et Draxler. Autre addition salée, celle de la Belgique face à la Hongrie. Les Diables Rouges se sont facilement imposés 4-0. Retour sur ce match avec Jean-Roger Bion.
À Toulouse, les choses n'ont pas traîné puisque les Belges ouvrent le score dès la 10e minute de jeu grâce à un but de la tête de Kirali. Les choses s'accélèrent au retour des vestiaires. Le match va basculer dans les 25 dernières minutes. Michy Batshuayi, à peine entré en jeu, c'est le sur un caviar d'Eden Hazard inscrit le 2e but. Eden Hazard, encore lui, inscrit le 3e but. Le calvaire de la Hongrie ne s'arrête pas là. En toute fin de match, Yannick Carrasco est venu parachever le succès de la sélection belge avec un 4e but à la 91e minute de jeu.
Merci Jean-Roger Bion. Alors terminons par cette nouvelle victoire du Chili en finale de la Copa América, Bagassi-Coura.
D'abord rappelons que Italiens et Espagnols jouent à la 85e minute donc, dans ce match des huitièmes de finale. Toujours 1-0 pour l'Italie. Le match est extrêmement ouvert en ce moment. Donc vous parliez de la Copa América et comme en juillet 2015 au Chili. La Roja chilienne a encore eu raison de l'Argentine en finale donc de cette Copa América. C'est un scénario quasi identique en étouffant ses attaquants, dont Messi, et en faisant la différence au tir au but. Messi qui prend sa retraite internationale avec l'Argentine. Une grosse nouvelle, Chérubin.
Merci, Bagassi-Coura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Minute Écho avec Anastasie Tutièche.
Le groupe français Atos, spécialisé dans les services numériques, a inauguré la semaine dernière son centre de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. 250 ingénieurs sénégalais y travaillent déjà, un effectif qui pourrait être porté à 400 d'ici fin 2016. Numérique toujours en République démocratique du Congo, où l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, la RPTC, a fini par réagir à la hausse spectaculaire du prix de vente des données mobiles intervenue le mois dernier. Les opérateurs de téléphonie mobile, rappelés à l'ordre pour revenir à l'ancienne grille tarifaire, n'ont appliqué que partiellement ces recommandations de l'institution. Au Burkina Faso, selon l'agence APA News, des hommes d'affaires turcs envisagent d'investir 70 millions de dollars dans l'installation d'une usine de filature de coton. Ce projet turco-allemand sera installé dans la zone de Bobo Dioulasso et emploiera plus de 1200 personnes. Dans un premier temps, l'usine se spécialisera dans la transformation du coton en fil et ensuite du fil en tissu avant de transformer le tissu en vêtements. Une bonne nouvelle pour la Bank of Africa Mali qui enregistre une hausse de 60,8% au premier trimestre comparé à la même période pour 2015. Ce bénéfice est de 2,294 milliards de francs CFA contre 1,427 milliards de francs CFA au premier trimestre 2015, soit une augmentation de 867 millions de francs CFA.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, Bruxelles.
Le vote des Britanniques jeudi pour une sortie de l'Union européenne pose une série de questions politiques, économiques et constitutionnelles. Pour les responsables européens, la procédure du retrait doit être initiée le plus tôt possible. Le Brexit pourrait-il faire contagion à d'autres États de l'Union européenne? Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles l'auteur de droit de l'Union européenne et professeur à l'Université libre de Bruxelles, Marianne Donny.
Le risque de contagion n'est évidemment pas à sous-estimer, mais pas à surestimer non plus. Pour le moment, il n'y a aucun parti au pouvoir dans les autres États membres qui envisage d'organiser un référendum sur le maintien de son pays dans l'Union européenne. Il y a bien sûr des demandes, mais pour le moment, elles émanent uniquement de partis qui sont dans l'opposition. Mais le Royaume-Uni montre que parfois les pressions venant de l'opposition peuvent conduire les gouvernements à ce genre de décision. Donc un risque de contagion, ce n'est pas totalement à exclure, mais ça me paraît quand même assez peu probable. D'autant plus que tout le monde semble maintenant prendre conscience que ce n'est pas si facile que ça de se retirer de l'Union européenne, que les questions sont très nombreuses.
Et quel type de relation entre les 27 et le Royaume-Uni?
Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il ne faut pas rompre les ponts, personne n'y aurait intérêt, qu'il faut maintenir des relations économiques, qu'il faudrait sauvegarder le plus possible du marché intérieur. Du côté des 27, on ne veut pas donner l'idée qu'on pourrait se retirer et puis finalement avoir tous les avantages sans les inconvénients ou sans les contraintes. Donc les négociations vont sans doute être assez difficiles pour le moment. Aucun des grands types d'accords qu'on connaît, que ce soit l'espace économique européen ou l'accord avec la Suisse ou l'accord avec la Turquie, ne conviendrait aux deux parties. Donc il va sans doute falloir inventer quelque chose qui soit fait sur mesure pour cette situation tout à fait spécifique du Royaume-Uni dont l'Union européenne a besoin, qui a besoin de l'Union européenne et qui d'un autre côté voudrait avoir moins de liberté des travailleurs. Mais c'est difficile d'imaginer que les autres pays lui accordent la libre circulation des travailleurs ou qu'ils puissent refuser la libre circulation des travailleurs plutôt et par exemple demander le libre accès au marché pour ses banques. Il va y avoir un donnant-donnant inévitablement.
Est-ce que ce référendum, c'était une erreur?
Clairement, c'était une grave erreur politique. David Cameron sait qu'il était un habitué des coups de poker qu'il avait gagné haut la main jusque-là. Et là, pour une fois, ben, il s'est brûlé les doigts et malheureusement, tout le monde avec lui.
C'était Marianne Donny à Bruxelles. Euro 2016, l'Espagne crucifiée par l'Italie. 2-0, première minute des arrêts de jeu.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Niger, le taux des mariages d'enfants compte parmi les plus élevés au monde. 75% des filles sont mariées, écoutez bien, avant leur 18e anniversaire, selon les statistiques. Dans le reportage qui suit, nous allons entendre l'histoire d'une fillette mariée à 12 ans et qui s'est échappée de son foyer. Aujourd'hui, la jeune femme a réussi à refaire sa vie grâce à une association qui lutte contre ces pratiques.
Je réponds au nom de Jamila Moussa. J'ai 27 ans.
C'est dans son foyer, au quartier Kazma de Niamey, que nous avions rencontré Jamila Moussa. Derrière un voile, elle a accepté de nous raconter l'histoire de son premier mariage.
J'avais 12 ans quand mon papa m'a donné un mariage au fils de son grand frère. On m'a amené chez lui et c'est là qu'il a commencé à me battre. Et j'ai fui pour venir ici à Niamey et j'ai rencontré Madame Maria Moussa. C'est la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales et c'est elle qui m'a sauvé.
Une nuit, elle décide de s'en aller, parcourt plus de 40 km pour monter à bord d'un camion et se retrouver à Niamey dans une famille inconnue. C'est de là qu'elle est conduite au siège de l'association Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales de Mariama Moussa.
Elle était traumatisée. C'est une fille très intelligente. Avoir le courage à cet âge de fuir, c'est pas chose facile et c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui.
Quelle est aujourd'hui la situation de ces enfants mariés précocement?
Et la situation de ces enfants est très critique. Nous avons un taux de 76%. Le fait de dénoncer, pour nous, c'est déjà un pas de gagne.
Des cas comme celui de Jamila, la structure les prend en charge comme elle peut. Jamila, par exemple, est recrutée comme femme de ménage au sein de l'association. Et c'est ici qu'elle a rencontré son mari avec qui ils ont aujourd'hui 3 enfants. Elle participe aussi aux activités de sensibilisation sur le phénomène du mariage précoce.
Je lance surtout à l'endroit des parents de laisser les jeunes filles grandir et avoir un esprit ouvert et de faire leur choix de mariage. Si moi, par exemple, ça aurait été que c'est moi qui ai choisi mon mariage, je n'allais pas me plaindre auprès d'eux pour leur dire que non, le mariage ne me plaît pas ou bien mon mari me bat.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
En République démocratique du Congo, en raison d'une insuffisante fourniture en électricité, des Congolais opèrent une transition écologique vers l'énergie renouvelable en utilisant des panneaux solaires. De Goma, le reportage de Charlie Kazereka.
C'était après avoir été déçu par la société qui produit l'électricité à Goma. Ça m'a motivé d'aller vers l'énergie renouvelable. Et depuis que j'ai cette énergie, les enfants sont à l'aise, on charge les téléphones. En plus de cela, ça nous aide trop à protéger l'environnement parce que je n'utilise plus les bois, braises, ça m'aide vraiment.
Sur ces des jeunes étudiants en électronique qui se sont créés des petites entreprises pour fabriquer localement des convertisseurs d'énergie solaire en courant continu. Kambale, surnommé Spray, la vingtaine, est parmi ses étudiants. Il se réjouit économiquement de ce qu'il gagne.
En tout cas, nos convertisseurs se vendent, les gens apprécient notre façon de faire et par mois, on peut vendre un minimum de 4 convertisseurs. Je me retrouve économiquement, mais ce n'est pas trop facile puisque ça dépend de la connaissance d'une personne à l'autre.
Pour question d'assurance et de sécurité, les ménages devraient approcher les techniciens bien avertis, pense l'ingénieur Seboudjangwe, Jean Dédier, enseignant du cours d'électronique qu'à l'université de Goma.
Il ne faut pas seulement voir les systèmes solaires en soi, mais il faut savoir comment installer correctement parce que souvent les incendies proviennent d'une mauvaise installation qui ne tient pas compte des normes. Les câblages, surtout les sectionnements, souvent ce n'est pas bien choisi en fonction de la charge qui doit être supportée.
Dans la ville, des magasins qui revendent des panneaux solaires achetés en Chine et en Europe se multiplient et se frontent les mains. Bibox, une antenne de l'entreprise britannique qui s'est lancé dans cette activité depuis plus de 2 ans maintenant et qui a vu son chiffre d'affaires évoluer. Son gérant Harry Amouli explique ici.
En tout cas, il y a vraiment une masse qui vient. Donc maintenant, par mois, on peut arriver à 50 ménages qui viennent acheter les petits kits. Donc au minimum, celui qui a $50 peut avoir un système solaire. En fait, notre chiffre d'affaires, ça dépend aussi de la satisfaction de la population. Et notre objectif, c'est que tout le monde ait accès à cette énergie.
Assurant la fourniture électrique à seulement 14% de ses citoyens, la RDC dispose du troisième potentiel hydroélectrique commande avec ses eaux qui peuvent produire plus de 100 gigawatts selon les experts à la matière. Mais l'accès à l'électricité reste un problème criant dans ces grands pays de plus de 65 millions d'habitants. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Cap sur la Guinée, la sécurité privée est en pleine expansion et joue un grand rôle dans la lutte contre le banditisme, surtout dans les grandes villes. Depuis quelque temps, la capitale, Conakry, découvre un nouveau service de sécurité privée offert par le duo Homme-Chien. Correspondance de Zakaria Camara.
Dans la cour de Cave Canem, Guinée, on est accueilli par les abonnements d'au moins 50 chiens dressés et gardés dans des cages. Ici, le quotidien rythme avec le métier de maître chien.
Un agent qui est sur le site avec le chien, il est encore plus efficace qu'un agent qui n'est pas avec le chien.
Première et unique société avec des agents cynophiles en Guinée, Cave Canem a très vite trouvé des clients dans un pays où l'insécurité a la vie dure. Oumar Kouyaté, directeur général.
On est avec les entreprises privées qui est notamment mix État-privé, mais aussi avec des autres entreprises qui peuvent être des sociétés minières et autres. Mais aussi on est avec des particuliers qui peuvent être des domiciles.
Confier sa sécurité à un agent avec un chien comme binôme est un fait nouveau en Guinée, Koumar Diallo semble apprécier.
Même si l'agent est là seul en train de somnoler, quand le chien aboie, l'agent va se réveiller tout de suite là.
Et ma famille et moi, nous sommes en parfaite sécurité.
La sécurité, c'est aussi l'objectif recherché par des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé qui ont fait appel aux agents cynophiles. Oumar Kouyaté, directeur général de Cave Canem.
Ils m'ont fait appel au service du département anti-drogue et crime organisé qui m'ont appelé à toute une urgence d'amener mes chiens de détection des stupéfiants, de fouiller le bateau. On a dépêché notre équipe pour venir sur le terrain avec l'accord du tribunal de première instance de Kaloum. On a fouillé ce bateau parce qu'il y a eu 7 kilos de cocaïne à l'intérieur.
En 2014, les autorités de la ville de Conakry avaient lancé une campagne « Une arme contre une récompense ». Plusieurs dizaines d'armes avaient été déposées par des citoyens contre une somme d'argent allant jusqu'à 200 euros. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma à la mise en onde, présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.